Vous travaillez dans l'audiovisuel ? Alors ce podcast est fait pour vous.
Tu ne sais pas ce que tu veux !
Enfin, je fais un raccord dans le mouvement, espèce d'idiot !
Je suis Jonathan Elalouf et vous écoutez Au Générique, le podcast qui parle de tous les métiers de la création audiovisuelle.
Si la production vous dit non, vous dites « le metteur en scène a dit oui ».
Un mardi sur deux, je donne la parole à un ou une professionnelle pour vous faire découvrir de manière authentique son parcours, ses anecdotes et son métier.
À l'époque, on fait ça avec deux cure-dents, ça avec une lampe de bureau. Vraiment, on fait ça avec ce qui nous passe sous la main, parce qu'il n'y a pas encore trop de budget, tu vois, pour faire le film. Ça viendra, par chance.
Ce podcast vous est présenté par Lightyshare, plateforme de location de matériel audiovisuel. Où que vous soyez, retrouvez tous les équipements dont vous avez besoin sur lightyshare.com.
Pour Dior, j'ai des grosses caméras, genre type Alexa ou okay. Red. Et après, c'est plus rétro-projeté, comme ça l'était à la télé des lumières, avec des projecteurs. Là, c'est vraiment sur des écrans LED.
Ok. Et si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et pensez à nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. Cela nous aide énormément. Bonne écoute.
Moteur ! Oh putain, moteur !
Salut Thomas.
Salut Jo.
Bienvenue, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Ça fait plaisir.
Super content de t'avoir avec nous. Pour être tout à fait transparent, on a un pote en commun puisque Tim qui travaille sur Lightyshare est en fait un de tes amis d'enfance.
Exactement.
Donc il nous a mis en relation, donc c'est super cool de pouvoir t'avoir avec nous. Pour faire un petit topo, grâce à différents procédés techniques, tu réalises depuis plusieurs années des films exceptionnels, illustrant l'immensité et les phénomènes du cosmos. Tes projets personnels ont été largement diffusés, puis tu as pu travailler pour différents artistes comme Max Cooper. D'ailleurs, le clip de Hope que tu as fait est juste fantastique. Je pense que c'est un de tes travaux que je préfère. Ou encore de l'artiste français Darius, mais aussi des marques comme Citroën pour le lancement de la DS4 ou Dior, lors du défilé automne 2021. Dans ta bio Instagram, ça nous a fait rigoler parce que tu te présentes comme un cosmic director.
Ouais, ça ne tape pas à l'œil, mais c'est pour attirer le... Bon, c'est pour ce réaliste, en fait. Hein, c'est directeur spécialisé dans le cosmos, quoi.
Ok, ça répond à ma question. Parce qu'on se demandait un petit peu, est-ce que c'est vraiment à prendre au premier degré ou,
J'ai la tête dans les étoiles tout le temps. Je pense qu'à ça, j'apprends beaucoup de la théorie aussi avant de faire des films. Et c'est vrai que c'est un truc qui m'intéresse et peut-être même qui m'obsède. Donc, en réalité, ouais.
Ça fait sens. Director. Parfait. Et alors, justement, pour ceux qui écoutent le podcast, je vous conseille très fortement, peut-être avant de se lancer dans l'écoute complète du podcast, d'aller sur ton site, c'est thomasvanz.com, donc Thomas et Vanz, V-A-N-Z.com, ou sur ton Instagram, thomas.vanz.
Thomas-du-bas-Vanz, je crois.
Ok. Très bien.
Thomas-du-bas-Vanz.
Voilà, pour aller voir un peu les contenus que tu as pu réaliser, parce que c'est assez exceptionnel et très difficile à décrire à l'audio. Donc, je pense que ça...
Ouais, je vais essayer de vous expliquer ça.
Voilà, donc n'hésitez pas là à mettre pause, à aller sur Insta ou sur Internet et à revenir nous écouter juste après pour comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu déjà comment tu as démarré l'audiovisuel, d'où ça vient, est-ce que tu as fait une école, c'est d'où ça vient tout ça?
Alors, pas du tout, je fais plutôt de l'autodidaxie en grande partie. Je pense que ça a été aussi grâce à mes parents, ma mère et mon père qui travaillaient à l'école de cinéma La Fémis.
Ah, ok.
École dans laquelle j'ai beaucoup passé de temps avec les étudiants, à voir les auditoriums, les salles de cinéma, les salles de décor. Donc, je pense que ça m'a inconsciemment donné une petite direction sur ce que j'allais faire plus tard. J'ai beaucoup fait de musique aussi, beaucoup d'animation 2D étant plus jeune, d'animation traditionnelle. Puis à un moment donné, j'ai eu envie de lier les deux et de passer un peu au niveau supérieur, de faire des vraies images avec une vraie caméra. Et j'ai eu plusieurs expériences dans des boîtes de VFX, des boîtes pour faire des effets spéciaux, chez Microsimage notamment, où j'ai appris After Effects, le logiciel qui permet de faire des effets spéciaux.
Alors justement, t'es arrivé chez Micros, donc qui est quand même une des plus grosses agences, je pense, d'effets spéciaux françaises,
oui.
Mais mondiales aussi, parce que ça bosse sur beaucoup de films. Toi, t'es arrivé là-bas, c'est vraiment là-bas que t'as appris à jouer avec After.
C'est exactement ça. Je bidouillais un peu avant, je faisais des petits trucs avec ce qu'on appelle les laboratoires de particules. Donc, je commençais à faire un peu des nébuleuses, des explosions, les trucs un peu fun, quoi. Et puis, quand je suis arrivé à Microsimage, j'ai pris une sacrée claque parce que là, j'ai vraiment appris la rigueur les problématiques de pub, de production, de tempo, de deadline. Et du coup, ouais, j'y ai passé un an et demi, je crois. Et en un an et demi, j'ai plus appris qu'en, je pense, 5 ans. Non, peut-être pas 5 ans d'école, mais en tout cas 5 ans de tout seul, quoi.
Ouais, bien sûr. C'était quoi, quand t'étais tout seul? C'était les tutos d'Andrew Kramer, Vidéo Copilot.
À fond, ouais. Optical Flare, Particular, Trapcode pour ceux qui connaissent. Et voilà.
Ok. Et alors, donc, du coup, à côté de l'audiovisuel, cette passion pour l'astrophysique, pour le cosmos, elle vient d'où?
Écoute, ça m'a pris très tôt. Je pense que c'est un attrait pour le mystère.
Ouais.
Essayer de répondre, enfin, peut-être pas répondre, mais au moins d'essayer de comprendre quelques éléments de réponse à la question pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien. Aussi pour l'évidente beauté, quoi, du cosmos, les nébuleuses, les trous noirs, ce que ça implique sur le temps, l'espace. Sur l'immensité et aussi paradoxalement sur l'infiniment petit, parce que bon, après je pourrais en parler des heures, hein, mais par exemple juste pour la question du trou noir, il y a des questionnements de type quantique autant que de type relativité générale, c'est-à-dire infiniment grand, donc c'est passionnant, ça relie un peu tout et toutes les... J'étais aussi passionné par la science en général et voilà, et abonné à Ciel Espace aussi.
Ça c'est la vraie explication, ouais, c'est cet abonnement.
C'est peut-être ça.
Et alors du coup, bah, justement, l'un de tes premiers projets qui a beaucoup fait parler de ton travail, c'est Novae, qui est un projet... Ouais, bah, est-ce que tu peux nous en parler? Peut-être tu
carrément,
le décriras mieux que moi.
Écoute, bah, justement, c'est à la suite de ces expériences en boîte de post-prod que j'en ai eu un peu marre et j'avais envie peut-être de faire mon propre projet et de montrer au monde ce que je voulais et savais faire. Du coup, j'ai décidé d'illustrer un phénomène en astrophysique qui s'appelle une supernova, qui est la mort d'une étoile massive dans une explosion cataclysmique.
D'accord.
Très très, enfin, on en a jamais vu au télescope, mais on sait que ça donne naissance aux nébuleuses qu'on connaît, les photos du télescope Hubble et plus récemment du James Webb télescope là, des nébuleuses magnifiques. Et je me suis toujours imaginé que waouh, si ça c'est les résultantes d'une explosion, à quoi ressemble cette dite explosion?
Et c'est ça que tu as essayé,
de créer en essayant d'avoir comme contrainte de ne pas utiliser de ce qu'on appelle de CGI, enfin d'image de synthèse, quoi, de pas de 3D, pas de simulation, seulement des prises de vue réelles.
Ouais.
Là, en l'occurrence, en aquarium.
Alors on va y venir juste après. Ouais, voilà, brûlons pas d'étapes. Justement, ton processus de création, je pense, avant d'arriver à la technique de l'aquarium, etc. Comment tu bosses sur tes projets? Moi, j'ai pu voir sur ton site, t'as 2 making-of sur ce projet-là.
Ouais.
On voit un petit peu rapidement un enchaînement d'images que t'as, j'imagine, trouvé à droite à gauche, qui essaye d'illustrer.
Exactement.
Ça. Donc, tu peux nous raconter un petit peu justement comment tu bosses là-dessus? C'est quoi les premières étapes?
Bah, la première étape, c'est un monsieur que je salue, qui s'appelle David de Souza, qui travaillait avec moi chez Ubisoft, qui lui avait juste une plaque de verre et une lumière en dessous, rétroéclairée, et il essayait de mélanger de l'huile, un peu des encres, et j'ai tout de suite tilté sur la ressemblance avec des images un peu cosmiques, de type nébuleuse. Et j'ai un peu développé, enfin j'ai un peu essayé du coup, bah avec Tim, notre ami commun, de mettre différents fluides, différents trucs chimiques. Bon, à ce stade-là, c'était les produits vaisselle qu'on trouvait chez maman, quoi.
Est-ce que t'avais quel âge à cette époque?
Là, je devais avoir 22, 23.
Ok.
Et j'ai fait ça, ouais, dans le jardin, dans la cabane à jardin de ma mère, avec un aquarium que j'ai chopé sur le Bon Coin. Et donc du coup, non, au début, oui, c'était sur plaque de verre, on essayait des choses, mais ça marchait pas trop. Et surtout, dans le cadre d'une supernova, c'est vraiment des gaz ionisés, donc lumineux, qui se diffusent dans un espace vide. Et donc, je me suis demandé comment je pourrais transmettre ça à une échelle beaucoup plus modeste, celle qui va me permettre de filmer. Et je me suis dit qu'un aquarium rempli d'eau, l'eau pourrait servir de vide. Et les encres, ces gaz ionisés que dégage l'étoile en explosant. Du coup, on s'est mis au travail, on a mis un aquarium, on l'a rempli d'eau, on l'a éclairé de manière à que l'éclairage vienne comme si ça venait de l'étoile, donc un éclairage vu du dessus, et on l'a fait tomber de l'encre dans l'aquarium, et on a filmé ça avec, à l'époque, une Canon 5D, rien de spécial. Et en fait, après, toutes ces, ce qu'on appelle des plates, donc on avait un fond noir, l'encre bien éclairée qui coule du haut vers le bas, donc ça nous faisait des éléments qu'on pouvait ensuite... découper, rotoscoper et mettre dans After Effects et les mettre tous en cercle pour que ça fasse un peu l'impression que les encres partent dans tous les sens et du coup simuler une explosion omnidirectionnelle, on va dire, comme le ferait une étoile en explosant, quoi.
Ok, mais alors du coup, vraiment, toi, ta première étape avant ça, c'est d'aller chercher un peu sur Internet les images qui existent,
ça,
tout ce qui est...
Oui, c'était ta question.
T'inquiète. C'est vraiment d'aller chercher tout ça et de faire un vrai travail de recherche, en fait, sur qu'est-ce qu'on sait déjà là-dessus, comment les gens l'illustrent.
Exactement.
C'est ça?
D'abord, on a une recherche scientifique. Le film n'est pas 100% accurate, je sais pas comment on dit en français, pas 100% scientifiquement exact, mais il est fortement inspiré de lectures scientifiques autour de la supernova, du fait que l'étoile d'abord enfle et ensuite arriver à un certain stade de déséquilibre, elle va rapetisser, rebondir et ensuite exploser. Si elle est en rotation, ça va donner une forme à l'explosion. Enfin, tout ça, c'est vrai que je l'ai étudié en profondeur, on va dire. Et ensuite, il y a aussi toute la technique avec toutes les personnes qui avaient pu filmer de l'encre dans un aquarium, notamment les slow-mo guys qui sont pas mal connus.
Mais alors justement, toi, ça a été ton point de départ, ça a été de te dire, ok, pour illustrer ça, on va utiliser le procédé de l'encre.
Oui.
Ou est-ce que t'as testé d'autres trucs avant,
Bah, je t'ai dit sur plaque un peu. Non, là pour l'instant on était vraiment sur l'aquarium. Après dans l'aquarium tout y est passé, je vais pas te mentir. L'acide chlorhydrique, qu'est-ce qu'on a mis d'autre, du café en poudre, on a tout essayé.
Pour voir ce que ça donnait
pour
à l'image.
Ce que ça donnait, parce qu'en fait à l'époque on était vraiment dans l'inconnu total. Moi je commençais à peine.
Ok.
C'était mon premier projet en fait, donc c'était vraiment que de la découverte. Donc c'était aussi énormément d'expérimentation, savoir les densités d'encre. Notamment, un truc super cool, c'est qu'on peut alléger l'encre. C'est-à-dire que l'encre, comme c'est de l'eau avec des pigments, elle est forcément plus lourde que l'eau, parce que c'est du coup un soluté alourdi par du pigment. Du coup, ça coule, quoi. Et en fait, en le mélangeant avec de l'alcool qui est beaucoup plus léger que l'eau, ça va permettre de faire des encres qui coulent beaucoup plus lentement,
à des vitesses différentes,
voire qui peuvent remonter à la surface.
Okay.
Et donc tout ça, on l'a découvert sur le tas. Et
c'est combien de temps à peu près de tests, d'expérience?
Je pense 4-5 mois, je pense,
à
pour tout avoir.
Et c'est à ce moment-là, t'avais pas forcément encore dans l'idée de faire exactement ce projet-là.
Si.
C'était déjà cet objectif-là très clair.
Ouais, toute l'expérimentation était dans le but de représenter une supernova.
Ok. C'est je trouve ça assez ouf. Ok, et alors du coup, bah justement, pour rentrer dans la technique de ce projet-là particulièrement, donc là, tu nous as raconté un petit peu les premières étapes de recherche, où pendant des mois, tu testes le café, l'huile, le liquide vaisselle, etc. T'arrives à trouver ta formule magique. Comment ça se passe, du coup, vraiment techniquement? T'as un 5D à l'époque.
Ouais.
T'es sur un aquarium. T'as besoin de quoi? T'as de la light à fond. C'est
franchement, à l'époque, on fait ça avec deux cure-dents et on a une lampe. En réalité, j'ai une lampe de bureau en fait. Hein. J'éclaire ça avec une lampe de bureau. Vraiment, on fait ça avec ce qui nous passe sous la main parce qu'il n'y a pas encore trop de budget, tu vois, pour faire le film. Ça viendra par chance pour le suivant. Mais du coup, oui, on est en mode gobelet en plastique, troué avec des barrettes de... Comment ça s'appelle? Des barrettes de... Pas de merguez, mais de...
des broches à barbecue,
Des broches à barbecue, exactement. Pour maintenir le gobelet qui est troué. Et en fait, le gobelet troué au-dessus de l'aquarium nous permet de mettre plein de couleurs, en fait, en même temps, dans le gobelet. Et ces couleurs vont tomber dans le trou et se mélanger dans l'aquarium en tombant dans l'eau. Ce qui va donner des volutes beaucoup plus techniques avec des couleurs qui se mélangent. Comme je t'ai dit avant, il y a certaines couleurs qui peuvent être allégées, d'autres alourdies. Donc, il y en a qui vont tomber plus vite, d'autres moins vite. Et comme je voulais un projet qui soit très coloré, comme peuvent l'être les nébuleuses qu'on voit sur Internet, du coup, j'y suis allé, quoi. J'ai acheté 15 000 encres différentes, des pailletés, des pailletés. Après, il y a plein de trucs qui n'ont pas marché. Les encres pour vitrail, par exemple.
Okay.
Enfin, y a plein de trucs qu'il faut tester avant.
Une fois que t'avais trouvé cette solution et que t'as commencé à la pousser, le film, il dure 5 minutes, je crois, à peu près.
Ouais, en fait, ça a duré d'un clip, c'est un très court métrage.
Et du coup, c'est combien de temps en vrai pour toi de production, d'image? T'as combien d'heures de rush? Ça doit être monstrueux, non?
Là, comme il y avait beaucoup d'expérimentation, il y a beaucoup de choses qui ont été jetées à la poubelle. Donc, je pense qu'en tout et pour tout, il doit y avoir, 3-4 heures de rush. pour peut-être 5 minutes de film.
Ah ça va, j'aurais imaginé encore quoi, plus que ça.
Ouais. Bah après tu sais on filme pas je filmais pas des grandes scènes, je filmais juste
l'ombre qui tombe. Un drop de
et puis d'encre surtout faut imaginer que assez rapidement l'aquarium il se remplit d'encre et il devient complètement opaque. Ah et
t'es obligé de le vider, tu le remplis
en repartie. Ouais, ça c'est le mauvais côté, c'est pas très écolo.
OK, on va éviter le sujet écologie sur ce projet-là.
Après j'ai trouvé des solutions.
OK. Ah bah super. Bah écoute, on va en parler juste après. Et alors, moi, je trouve ça assez ouf parce que quand on voit ce projet de Novae, il a chopé un nombre de prix incalculable. Il a chopé beaucoup de prix, quoi.
Il a bien pesé.
T'as eu pas mal d'articles de presse là-dessus,
exactement,
etc.
Ouais, c'était trop cool.
Et t'as fait ça avec des broches à barbecue, un gobelet.
Ouais, bah, c'était un peu les intitulés des articles à l'époque, parce que je le décrivais aussi comme ça, tu vois. C'est vraiment un projet fait un peu à l'arrache, non, mais avec trois fois
rien. Les moyens du bord, ouais.
Les moyens du bord, beaucoup de passion et de patience, et surtout en post-prod, tu vois, parce que dans After Effects, faut mettre toutes les vidéos pour faire une impression de 3D. Et les articles, c'était vraiment ça, quoi. C'était un réalisateur sorti de nulle part nous fait une supernova avec de l'encre dans un aquarium. Donc, ça a fait cliquer, on va dire.
C'est assez ouf. Et puis, j'imagine que toi, avec le recul maintenant, c'était il y a 9-10 ans, ce projet, à peu près. Ouais. Avec le recul, j'imagine que les projets que tu fais maintenant, dont on parlera juste après, c'est plus du tout les mêmes moyens.
Non. non, c'est cool.
Ça doit être un gros changement, quoi.
Ouais, c'est cool.
Et alors justement, donc après cette étape de tournage, tu viens de parler justement d'un peu d'After Effects. C'était là, toi, c'était un peu ton premier amour, en tout cas tes premiers.
C'est mon outil privilégié.
C'est ton c'est ton premier outil, c'est After.
Ouais.
Donc du coup, c'est quoi le boulot qu'il y a après quand tu récupères tes rushs? Comment ça se déroule dans les grandes lignes?
Je dirais que la problématique principale, c'est de transformer ces rushs qui sont par définition dans l'espace 3D virtuel d'After Effects, c'est des feuilles de papier, quoi.
Ouais.
Des feuilles de papier 16/9 qu'il faut dupliquer, multiplier et mettre à différents plans de profondeur pour donner l'illusion que c'est en 3D et qu'on se balade vraiment autour d'un objet céleste.
Ok.
Donc du coup, ça, c'est vraiment la première problématique. Donc c'est découper les plates, les mettre au bon endroit et faire des mouvements de caméra qui ne révèlent pas trop le fait qu'elles soient plates.
Que
en
c'est
fait,
2D,
en
ouais.
Du coup, au fur et à mesure, ça a été vraiment ça, genre trouver l'expertise dans l'illusion d'utiliser des choses réelles, filmées en vrai, et de leur donner l'impression qu'en fait c'est de l'image de synthèse et que on peut se balader en 3D. On peut se balader.
J'ai trop de tête
la pression.
Oh, merde.
Oh, non. Attends, je disais quoi du coup? Je disais du coup au fur et à mesure ça a été vraiment de trouver l'expertise d'utiliser ces rushs par définition 2D dans un espace 3D pour vraiment faire l'illusion que c'est qu'on tourne autour d'un objet céleste. Et finalement, ce que j'aime le plus, c'est vraiment quand les gens se disent mais comment c'est fait, tu vois, genre est-ce que c'est du vrai, est-ce que c'est du faux,
est-ce que tu rajoutes quand même par-dessus une couche de particules justement, un truc comme ça.
Et même les particules, tu vois, de Novae,
ouais,
parce que j'ai voulu pousser le truc à fond, sont en fait du café, enfin les étoiles, les fonds étoilés, tout ça, tu l'as vu dans le making of, normalement, c'est du café en poudre sur une feuille blanche, tu vois, un peu espacée comme ça, que j'ai mis en négatif. Et que j'ai utilisé comme modèle de particules pour mon nuage de particules. Et du coup, en fait, tout le ciel étoilé que tu vois dans Novae, en fait, c'est du café, quoi.
Ah ouais, ok. Ah, donc au final, il y a peu de...
Il y a zéro truc.
Il y a peu d'éléments générés informatiques. Enfin,
en vrai, il y en a zéro. Enfin, j'ai essayé de faire en sorte qu'il y en ait zéro. Après, en vrai, je pense qu'il y a quelques optical flares, tu vois, de vidéocopilotes qui se baladent.
Classique.
Ça, je peux pas le nier. Mais le plus possible, même tu vois, il y a une séquence où on est à l'intérieur de l'étoile. Et en fait, c'est des duplicatas de milliards de trucs que j'ai fait, en fait, dans l'aquarium. Donc, au final, c'est très post-produit, mais la matière première, c'est vraiment que du tourné, quoi, en réel.
Ah, c'est ouf. C'est à des moments, on s'y perd un petit peu, hein, pour réussir à déceler, ce que tu disais, hein, ce qui est vrai du faux, c'est quasiment impossible, quoi. Il y a tellement de calques qui se superposent.
Ouais, c'est ça. De toute façon, à la fin, c'est des centaines de calques.
Et d'ailleurs, vraiment, je recommande à tout le monde d'aller voir les making-of de ce projet-là, parce que justement, on voit un peu aux différentes étapes et on voit la partie After Effects un peu en stop-motion, en accéléré, où on voit mettre les calques les uns après les autres, les retoucher, les déplacer, les retourner et tout.
Ouais, j'adore faire ça.
Ah, putain, on sent qu'il y a quelque quelques heures d'After Effects.
Ouais, tu sais, je lance l'enregistrement de l'écran quand je fais des sessions de la nuit, ouais. Minuit à 5h du mat, je m'enregistre et après ça fait un beau timelapse.
Ah bah c'est clair, ça mériterait même de faire des live Twitch. Maintenant ça se fait beaucoup avec les keycodes, etc. Ce serait super intéressant de te voir en live faire le truc, tu vois, expliquer, ouais, je fais ça comme ça. Des techniques qui sont quand même assez rares. Enfin, moi, je pense que t'es le seul mec que je connais qui fait ça.
Ouais, on est 5-6 quand même. Je pense, enfin, on n'est pas beaucoup, mais de reconnus. Enfin, je pense à Thomas Blanchard, je pense à Roman Hill, mm-hmm. qui est mon ami d'ailleurs. Suzy C, c'est vraiment des têtes qui font ça aussi très bien.
Ok. Grâce à ce projet-là, du coup, t'as pu faire connaître ton travail.
Ouais.
Et derrière, t'as d'autres projets qui te sont tombés dessus. T'as des
bah, en fait, d'autres réels que t'as fait toi-même. Ouais, c'est l'avantage de, on va dire, faire un projet pour soi et être sûr de ce que qu'on veut le mener à bien et que c'est ne pas perdre confiance dans ce truc qu'on entreprend, quoi. C'est que si ça marche, et en général, quand la confiance, l'inspiration est là et qu'on donne tout pour mener ce projet à bien, si ça marche, après c'est vraiment trop cool. Il y a plus trop besoin de chercher du travail. Enfin, en l'occurrence, j'ai passé aussi, faut le dire, j'ai passé un mois et demi, deux mois à envoyer le film à j'ai spammé des centaines de personnes, quoi.
Ah, c'est intéressant, ça, justement. Comment t'as fait? Est-ce que t'avais des contacts déjà un petit peu?
Zéro. Je suis parti de rien. J'ai juste je pense un bon conseil, c'est taper les codes de Google, là, les petits trucs qu'on peut taper dans
les
Google,
requêtes
pour trouver, par exemple, je sais pas, ça va être trouver tous les arrobases dans les pages intitulées contacts,
ouais,
des sites de type blog, magazine, art, multimédia, numérique, digital, quoi. Donc je tapais ça, je récupérais des milliards de mails, j'envoyais mon film à tout bout de champ, quoi, et du coup, c'était trop cool, quoi. Après, c'est un peu en mode, il y en a un, il y en a deux, il y en a quatre, il y en a huit.
En fait, c'est dès que tu as commencé à en avoir un, deux, trois qui ont commencé à te répondre, après, à parler de toi. Ouais. En fait, les autres voient que ça parle de ce projet-là. Puis, c'est une boule de neige, quoi.
C'est exactement ça. Et un truc marrant, c'est que ça atterrit sur un site russe, je crois, qui a fait la moitié de mes vues, un truc comme ça.
Ah ouais?
Un site de divertissement qui a buzzé de fou, quoi. Et du coup, je sais qu'il y a une grosse audience.
En Russie, ouais. Ok. Et du coup, à ce moment-là, donc si je dis pas de bêtises, tu as fait trois films que tu as réalisés toi. C'est pas des commandes, c'est vraiment les tiens.
Oui.
Ça, c'est
trois courts-métrages.
C'est tout de suite à la suite de Novae.
Non, en réalité, c'est assez espacé parce que j'aime bien prendre du temps pour faire des courts-métrages parce que, comme je t'ai dit, je m'intéresse beaucoup aux propos avant.
Ouais.
J'en apprends beaucoup en théorie scientifique pour essayer de pas trop. Bah, après, c'est des projets qui restent artistiques, mais j'essaye que ce soit artistico-scientifique et de garder quelque chose d'exact. Donc, je me renseigne beaucoup et je prends du temps aussi à trouver le sujet. Parce que c'est vrai que l'imagerie cosmique, il y en a quand même déjà pas mal dans les documentaires. Donc là, j'aime bien aussi faire des courts-métrages qui, on va dire, j'essaie de faire quelque chose qui n'a pas été encore vu. Et notamment le deuxième, c'est marrant parce que c'était juste après Interstellar, donc c'est pas vraiment, c'est pas vraiment genre pas encore vu. Mais et du coup, le deuxième traite de trous noirs.
Ouais.
Et du coup, là, c'est pareil, trous noirs, tu peux passer une vie à apprendre dessus, quoi.
Et surtout qu'il me semble que sur celui-là, t'as pris la théorie du trou blanc. Alors après, moi, je connais pas grand-chose, mais si j'ai bien compris, c'est que toi, t'as pris une des théories qui est plausible, mais pour l'instant, on sait pas trop. Et t'es allé explorer ce truc-là et t'es allé imaginer ce qui se passe dans
c'est
ce cas-là,
ça,
quoi.
Exactement. Bah, en gros, t'as le trou noir dans lequel l'information se perd, c'est-à-dire qu'on sait pas où elle va. Et ça rend fou les physiciens. Et il y a un hypothétique trou blanc que certains considéreraient comme étant même le Big Bang, parce que c'est finalement un point d'où toute la matière émerge. C'est un peu l'inverse en fait du trou noir, qui est un peu la fin du temps, et le Big Bang qui en est le début. Il y a aussi un concept intéressant, c'est que l'horizon des événements, c'est-à-dire la surface noire dite du trou noir, ben en fait c'est pas une surface à proprement parler, c'est vraiment la sphère au-delà duquel la lumière ne peut pas s'échapper, donc ça fait vraiment un trou sphérique noir. Dans le cadre du Big Bang, on a aussi une limitation qui est un peu pareil, comme si on avait une horizon des événements, l'horizon des événements du Big Bang, c'est-à-dire qu'on peut pas voir après, quand on remonte dans le temps, on peut pas voir après, je crois, un truc comme 300 000 ans, on peut pas voir ce qui s'est passé entre 0 et 300 000 ans. Donc il y a quelques similarités entre les trous noirs et le Big Bang. Et je sais pas, j'avais envie de travailler là-dessus parce que c'est aussi, tu vois, c'est aussi interprétatif, c'est-à-dire que à cette époque-là, je commençais vraiment à avoir un atelier, à tester plein de choses.
Est-ce différents. Que justement, le premier projet t'a permis d'avoir accès à un peu plus de moyens, pouvoir tester, expérimenter un peu plus.
Exactement. J'ai collaboré aussi avec ce roman Hill, dont je te parlais tout à l'heure, qui a travaillé sur le trou blanc. Et du coup, on a testé énormément de choses. Et là, on commençait à voir, tu vois, c'est même pas juste pour le film, c'est juste le plaisir
de tester
plein de trucs. Et en fait, on commençait à voir qu'il y avait certains rushs qui vraiment évoquait un point d'où toute la matière part et tu vois, c'était un peu bleuté, c'était un peu aquatique, et on se disait que le trou noir, vu qu'il y a une espèce de un disque, ce qu'on appelle un disque d'accrétion autour, donc c'est de la matière qui tourne très vite, qui est un peu comme dans Interstellar, quoi, qui est un peu en feu, quoi. Même si la vraie représentation, c'est bleu, mais en réalité dans Interstellar, et moi j'ai fait aussi l'erreur, c'est plutôt feu, orange, jaune. À l'inverse, le trou blanc, on s'imaginait qu'il était plutôt aquatique, bleuté, pour faire un peu une opposition, quoi.
Et ben alors, justement, à ce moment-là, quand t'as commencé à expérimenter, c'était quoi les moyens que t'avais à ce moment-là? Parce que du coup, juste avant, c'était les pics à barbecue et les gobelets troués. Là, t'as pu quand même.
C'était un peu la même.
T'as pu step up ou non? C'était
ouais,
pareil.
Non, c'était déjà l'acquisition d'un atelier. Ça, c'était cool.
OK.
D'avoir plus d'espace. Et pour Intra, j'ai un peu quitté la contrainte de tout faire en vrai, parce qu'un trou noir, c'est quand même dur à faire avec des encres et des pigments. Mais d'ailleurs, on tournait aussi beaucoup plus sur plaque. J'ai vraiment découvert ce que c'était de tourner sur plaque. Donc, quand on dit tourner sur plaque, c'est tourner sur, par exemple, on va dire un plat à tarte, tu vois, avec une très petite surface. En fait, dans les vidéos YouTube un peu marrantes, tourner sur plaque, ça va être mettre du lait, des pigments, tremper un coton-tige dans du liquide vaisselle et toucher les pigments avec le coton-tige, et tu vas voir que ça va faire un truc
tout
marrant.
Tous les pigments vont se déplacer. Voilà.
Donc, du coup, on mettait la caméra vraiment top shot au-dessus de la plaque. Et là, on a testé des milliards de trucs. Et en fait, c'est trop cool. Bon, après, ça reste quand même beaucoup plus 2D que ce qu'on peut tourner en aquarium, qui est vraiment en profondeur. Mais pareil, en travaillant les superpositions de calque sur After, tu peux réussir à faire des compositions qui sont vraiment... tu vois pas que c'est de la 2D, quoi. Et notamment, tu peux aussi... Et ça, on l'a fait sur Intra. Déformer ces... Bah, ça, c'est, du coup, je l'ai découvert sur Intra, donc c'était vraiment un step-up, quoi. C'est de prendre ce que je te disais, ces feuilles de papier un peu plates que avant j'organisais autour d'un espace 3D dans After.
Ouais.
Là, maintenant, je pouvais les déformer. Donc, leur donner la forme que je voulais. Donc, c'est-à-dire que un rush pouvait, au lieu d'être plat comme une feuille de papier, être un peu arrondi autour d'une sphère. Donc, ça m'a donné beaucoup plus de latitude pour travailler les rushs que je filmais. Et du coup, step-up technique, technologique, avec les nouveaux FX, les After Effects qui s'upgradaient au fur et à mesure, et le tournage sur plaque. Tournage sur plaque de verre.
Et d'un point de vue technique sur le tournage en lui-même, du coup, tu tournais avec un boîtier, enfin, c'était classique, t'étais pas à la fantôme pour avoir du super ralenti ou.
Non, en fait, tu peux déjà ralentir les réactions chimiques avec les produits chimiques que tu utilises. Le milieu aqueux de base, il va être. Les réactions vont être différentes selon qu'il est plus visqueux ou moins visqueux. Donc, tu vois, par exemple. Dans du miel, ça va être beaucoup plus lent que dans de l'éther, par exemple. Okay. Alors, j'ai pas utilisé l'éther parce que c'est illégal, mais je sais que c'est le liquide le plus volatile et le plus léger, finalement. Donc, tu vois, donc la slow motion, il n'y en a pas besoin parce que tu peux déjà faire un espèce de slow-mo en vrai.
Ouais, donc, t'as pas besoin de te retrouver avec des projos partout pour éclairer à fond la caisse.
Ça, quand même, si, ouais, c'est cool. En vrai, plus t'as de lumière, mieux c'est.
Ok, d'accord. Et alors, après, peut-être pas révéler non plus ta recette magique derrière, mais les produits que tu utilises le plus, c'est quoi exactement
Franchement, avec tous les trucs de base, tu peux faire des trucs de fou. Il n'y a vraiment pas besoin d'aller chercher très loin. Tu peux vraiment prendre tout ce qu'il y a dans ta cuisine et déjà faire des trucs de...
Ouais, t'es pas obligé d'aller chercher de l'éther illégalement et...
Non, alors après, franchement, je vais pas mentir, j'en cherche depuis longtemps. Parce que c'est vraiment... Rien que l'éther, tu vois, c'était le nom qu'on donnait au vide avant.
Ouais.
le vide du cosmos, on appelait ça l'éther. Donc, je sais pas, déjà, ça me donne envie d'aller voir.
D'aller explorer.
D'aller voir pourquoi ce liquide s'appelle éther, pourquoi il était légal avant, maintenant il est illégal. Bon, après, on sait pourquoi, parce que ça peut être dangereux quand on respire trop, mais je pense que dans un atelier.
Ouais, dans le cadre d'une création artistique.
Ouais, dans le cadre d'une création artistique, c'est un liquide que j'aimerais beaucoup utiliser.
Ok. Bon, bah, si jamais vous avez un peu d'éther chez vous.
Ouais, appelez-moi direct. Je passe.
J'adore. Dans les gros projets que t'as fait, il y en a un dans un lieu que j'adore. T'as fait un projet à l'Atelier des Lumières, c'était en 2019.
Exactement, ouais, c'était à la suite de mon deuxième film. Ouais.
Et alors du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet? Moi, je suis curieux de comment on fait pour mapper un lieu comme l'Atelier des Lumières. Si vous connaissez pas, allez jeter un œil pareil hein, sur Internet, Atelier des Lumières Paris, il y en a un peu dans le monde entier. C'est un grand espace qui fait combien de mètres carrés C'est un espace qui fait plusieurs centaines de mètres carrés, j'imagine.
Bon, peut-être pas milliers, mais peut-être... Non, je sais pas.
En tout cas, c'est assez costaud.
C'est 500, je sais pas du tout.
Avec un étage, un souterrain avec de l'eau, et il y a des projections qui sont au sol et sur tous les murs à 360.
C'est ça.
Exactement. Voilà, bah, brièvement, pour expliquer très brièvement. Ouais, et alors du coup, comment on bosse là-dedans? Parce que ça doit être...
Il faut des gros ordis.
Ok.
Il faut beaucoup de puissance de calcul. Et après, c'est un petit peu le même système que pour les anciens films. C'est de la multiplication de rush que j'ai chopé. Donc après, le projet a été pensé comme ça. Donc tu vois, par exemple, la pièce qui est dans le grand hall de l'Atelier des Lumières, c'est un espèce de multi-big bang. Donc en fait, j'ai filmé à la seringue avec un objectif macroscopique.
Ouais.
Pour ceux qui savent pas, c'est un objectif qui est presque un peu comme un microscope, quoi, qui filme des toutes petites surfaces. Et à la seringue, j'ai ma petite recette et je faisais tomber, genre, juste une goutte. Et ça faisait vraiment une explosion.
De couleurs.
Et ça, je l'ai fait 40 fois.
OK.
Et en fait, ces 40 fois m'ont permis d'avoir 40 variétés d'explosions que j'ai fait péter dans tous les sens dans le grand hall j'ai du mal, c'est pas la Villette, dans le grand hall de l'Atelier des Lumières.
Ok.
Et sur une bande son de sur une musique de Jonathan Fitas qui a fait un bête de travail sur ce projet. Et du coup après beaucoup de calculs.
Ouais, j'imagine.
Et surtout l'espace est subdivisé, ça faut le savoir, l'espace est subdivisé en plein de petites parties. C'est un peu comme si t'avais une mosaïque d'écran plat sur tout l'Atelier des Lumières. Donc il y a plein de trucs à prendre en compte, tu vois. Je sais pas si tu te rappelles, mais il y a un grand cylindre au milieu.
Donc c'est une ancienne cheminée.
Voilà, faut imaginer que le bord droit du cylindre doit correspondre au bord gauche, sinon il va y avoir une rupture. Donc il y a plein de trucs qu'il faut prendre en compte.
C'est ça la question que je me posais un petit peu, c'est est-ce que on bosse sur un projet, alors à mon avis ça doit être impossible techniquement, mais est-ce qu'on bosse sur un projet qui est où t'as toute la surface sur un seul projet et tu vois, tu gères, là, il y a une explosion à droite, à gauche, en haut, en bas, etc. Ou est-ce que, j'ai l'impression que c'est ce que tu dis plutôt, tu découpes le projet en plusieurs trucs et après tu vas les relier, en fait, à la projection, c'est ça?
C'est un peu ça,
ouais. Ok. Mais alors, c'est comme si t'avais 10 films en même temps.
Exactement. Ouais, en fait, c'est ça.
Ok.
Même plus, hein. T'es genre, mur nord, mur sud, mur ouest, mur est, mezzanine 1, mezzanine 2, sol, le sol est subdivisé aussi, donc t'as vraiment 1000 contenus vidéo à lâcher, quoi.
Et alors, quand tu bosses dessus, comme tu viens de le dire, il y a des espaces qui sont différents, c'est pas juste des murs plats, c'est pas un rectangle tout plat, il y a même de l'eau à un endroit, en sous-sol, en dessous de là où les visiteurs marchent. Comment tu fais pour prévoir ça? Toi, tu as pu bosser sur place pour tester?
De manière mappé, assez limitée, tu vois, parce que bon, toute la journée, en fait, il y a des visiteurs. Donc, il y a eu, je crois, quatre séances de prévisualisation.
Ok. Ah ouais, donc c'est déjà le projet est fini, en fait.
Donc, en fait, tu vas tester une fois, tu vas essayer de comprendre comment ça marche. Tu as une première version, tu la testes, tu vois toutes les problématiques. Troisième version, t'as intérêt à avoir corrigé beaucoup de trucs. Et quatrième version, faut que ce soit parfaite, quoi.
Ah ouais.
Donc, du coup, ça a été assez technique, hein. Il y a eu beaucoup de problématiques, notamment de, tu vois, je pense à des moments où, tu sais pas pourquoi, t'as un fichier qui saute. Et donc, du coup, t'as tout un pan de mur qui disparaît. Faut comprendre pourquoi, quand tu fais les rendus de telles vidéos, tu vas pas sortir des vidéos, en fait, tu vas sortir des séquences d'images.
Mmh.
Donc, parfois, tu as des images, elles se rendent pas. Donc, du coup, faut que tu ailles localiser cette image, à quel endroit du mur. Donc, c'est,
voilà, c'est très technique. C'est vraiment une séquence d'images. C'est-à-dire que tu as des dossiers avec 1 million d'images déroule, quoi.
Immensément lourd, ça pèse
parce
terabytes de données, quoi.
Ah bah ouais, j'imagine, ouais. Et eux, derrière, ils ont des ordis ultra puissants. Exactement. Pour dérouler le truc toute la journée, non-stop.
Exactement.
Et alors, toi, tu étais tout seul sur ce truc-là? Vous étiez deux?
Moi, j'étais tout seul, ouais.
T'as fait tout ce projet seul?
Complètement, ouais. Bah non, j'ai fait tout ce projet seul.
Ouais.
Mais techniquement, et j'ai eu une aide matérielle.
Ok.
Venue d'une société qui s'appelle DLP Paris. Okay. Une boîte de post-prod aussi, chez qui le patron Cédric Chopin, c'est un de mes meilleurs amis, donc en fait on bosse ensemble et on a une totale confiance l'un en l'autre, donc il me laisse le soir et les week-ends
bosser sur les stations.
Il me laissait ça, et on avait les stations et je pouvais lancer des rendus sur 5-6 machines en même temps.
Ouais, parce que c'est ça, les temps de rendu là, ils doivent être monstrueux.
Et puis surtout, t'es tributaire de ces rendus là pour pouvoir avancer, donc tu sais que t'avances sur le mur nord pendant que le mur sud il est en train de rendre, du coup après
tu pries pour qu'After plante pas.
Ouais, ouf.
À 3h du matin le truc il bug, faut revenir le relancer. C'est Adobe, quoi.
Exactement.
C'est le jeu. C'est en termes de temps, c'est combien de temps ce projet a créé?
Je crois c'est 5-6 mois.
Ah, oh, waouh.
Ouais, 5-6 mois, parce qu'en fait tu parles d'espace principal, mais il y avait un plus petit espace qui s'appelle le studio.
Ah, le studio, ouais, ouais. Tout à fait, ouais, où là t'as 180.
Là, ouais, c'est 270, okay. Je crois, degrés. Donc c'est en fait mur droit, mur frontal et mur gauche. Où là j'avais un film de 15 minutes à produire.
Ah, oh, waouh.
Et là, en l'occurrence, c'est ça qui m'a pris le plus de temps, en fait. Parce que ce qu'on a fait dans l'espace principal, c'était une déclinaison de ce qu'on a fait dans le film du studio.
Ok.
Et du coup, mais pareil, hein, le studio, pour ceux qui connaissent, c'est une composition de, je sais pas, 15 000 pixels de large, donc c'est un truc gigantissime. En fait, c'est un fin bandeau qui fait en fait la taille d'un mur classique, quoi, genre de 2 mètres, quoi, de 2 mètres et demi, mais qui couvre 3 pans de mur. Donc du coup, tu fais un film sur un espèce de bout de scotch très long, quoi, tu vois.
Ouais, c'est un
espèce
format de lacet, quoi. Complètement bâtard, quoi.
C'est un format pas... très bizarre.
Ouais.
Et du coup, tu dois faire une prévisualisation où ce fin bandeau est replié sur les côtés pour avoir le mur gauche et le mur droit et savoir où est-ce que les choses se coupent, enfin, quels éléments vont être dans l'angle et tout. Donc, c'est vraiment technique.
Mais comment tu fais, toi, pour bosser dessus? T'as 12 écrans autour de toi quand tu...
Écoute, hein, comme je pouvais, hein, j'avais pas d'écran à ce format-là. Très peu d'occasions de tester le film.
Ouais.
Comme je t'ai dit, 4 ou 5, un truc comme ça. Donc du coup, bah, en fait, tu regardes de loin ton fin bandeau, puis ensuite tu viens zoomer dans des parties, tu retaffes. C'était long, hein, c'était fastidieux, mais après j'aime bien les projets longs et fastidieux.
Et alors, par curiosité, ce projet-là avec l'Atelier des Lumières, c'est une commande de la part de l'Atelier des Lumières? C'est un truc que toi tu leur as proposé?
Non, c'est eux qui viennent me chercher et ils me font une commande exclusive, en fait, pour Culture Espace, c'est-à-dire pour tous les lieux type des lumières, parce qu'il y en a beaucoup.
Il y en a à
Dubaï. Mmh. Et maintenant, il y en a à Séoul. D'ailleurs, Verse, mon exposition, elle est à Séoul en ce moment. Elle était à Dubaï l'année dernière et encore avant, elle était à Paris.
Donc là, toi, tu suis un peu ton projet, balader à travers le monde.
Ouais, puis c'est cool. Franchement, elle fait un bout de chemin. Je pense qu'elle a été vue par pas mal.
Parce que là, c'est sorti en 2019 en France, Paris. Ouais. Et on est pas fin 2022, mais on arrive à la fin 2022 et le projet tourne encore.
Ouais, ça fait 3 ans. Enfin, c'est sur 3 années consécutives. Ouais.
Parce que c'est quelque chose qui est en plus pas du tout visible sur Internet, étant donné que c'est quelque chose d'immersif.
Ouais, c'est impossible de le poster sur. J'ai une version 16:9. Ouais. Mais en fait,
t'as
30% de l'image, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais. Donc, t'as peut-être, il me semble, sur Vimeo, t'as peut-être une vidéo qui présente dans l'Atelier des Lumières un peu le truc sur 10 secondes.
Ça a été tourné. C'est eux qui les ont, ces images-là. Moi, j'ai juste un trailer.
OK.
Où c'est un trailer du film, ou pas in situ.
OK, ouais, donc tu vois film, pas tu vois dans ce le lieu. D'accord. Moi, c'est vraiment un lieu que j'adore, l'Atelier des Lumières. À chaque fois, les expos que je vois là-bas, il y a des trucs qui m'emmerdent un petit peu, mais il y en a certaines que je trouve incroyablement bien faites, et c'est souvent les trucs un peu nouvelle génération, quoi, tu vois. Parce
que, il faut aller à leur festival qui s'appelle l'AMIEX, c'est genre art, Ouais, je sais plus. En tout cas, okay. c'est les créations, on va dire,
modernes, contemporaines. Contemporaines, je vais chercher le mot.
Ouais, contemporaines où t'as plein de studios avec des mecs qui font de l'art génératif, par exemple, ou qui vont prendre possession du lieu. Et là, c'est vraiment cool. Tu vois, c'est beaucoup moins les expos familiales type Van Gogh ou Klimt.
Qui sont bien aussi, mais c'est un autre style, quoi. C'est très, très différent. Et donc, du coup, t'as aussi des commandes de marques.
Exactement.
Parce que si je dis pas de bêtises, t'as eu Citroën, t'as eu Dior.
Ouais. J'ai fait deux scénographies.
Ouais.
Pour des défilés de Dior. J'ai fait une pub pour Citroën. J'ai travaillé pour une marque de whisky, des marques de parfums. Donc ouais, c'est cool, ça tombe.
Et alors, comment ça se... Ça, c'est eux qui viennent te voir pareil. Ou derrière, t'as une agence qui s'occupe de toi.
Non, régulièrement, j'ai des demandes en direct, ouais. Okay. Bah, après, tu filtres, hein. Bien sûr, il y a plein de trucs qui sont pas... Enfin, qui sont cool, mais qui sont pas trop au bon tempo, tu vois. Ouais. Mais sinon, on va dire, une fois sur 10, t'as vraiment une vraie grosse marque qui vient te voir et qui te propose une vraie collab, et ça, c'est cool.
Parce que j'imagine que bosser pour Dior sur un défilé, ça doit y avoir des contraintes, des...
Écoute, non. J'ai eu beaucoup de chance. Ouais. En fait, je pense que, comme ce que je fais, c'est très spécifique déjà. Quand on vient me chercher, on vient me chercher pour ça, tu vois. On vient pas me chercher pour...
Ils viennent chercher l'artiste et l'art qu'il y a derrière. Ils
donc en pas général, t'aider. De plus en plus en tout cas, et j'ai vraiment de la chance et je suis reconnaissant pour ça, on me dit fais ce que tu sais
faire. Fais-toi plaisir.
Ouais, fais-toi plaisir. Ça, c'est cool.
Et du coup, les moyens techniques, ils ont évolué sur ces projets-là. Tu bosses avec d'autres caméras, d'autres moyens, des studios plus gros, je sais pas, des aquariums qui font 200 litres maintenant.
Bah, dans ces quatre figures-là, c'est-à-dire pour Dior, j'ai des grosses caméras, genre type Alexa ou Red. Et après, c'est plus rétro-projeté, comme ça l'était à télé-lumière, avec des projecteurs. Là, c'est vraiment sur des écrans LED.
Ok.
De type le truc qui nous a tous choqués, là, le Mandalorian.
Ah ouais, ok. Ouais.
Donc c'est des grands écrans avec énormément de LED et là c'est beaucoup plus cool parce que l'image est brillante quoi. La lumière qu'elle émet, l'écran est gigantesque donc tout ce que tu mets devant. Pour Citroën c'était la voiture, pour Dior c'était les.
Ouais, t'as une vraie réflexion. T'as
la lumière que tu, la couleur et l'intensité de la lumière que tu mets dans les vidéos qui seront projetées sur, qui seront diffusées sur ces écrans LED. Ce sera cette lumière qui va éclairer aussi le sujet. Donc c'est vraiment cool. Et sur Dior c'était incroyable quoi. C'était un écran LED gigantesque avec un sol miroir en plus. Donc
ouais, c'est un sol un peu comme dans le studio justement de l'atelier des lumières, qui va réfléchir l'image qui est projetée ou diffusée sur l'écran LED.
C'est ça.
Et ce qui donne un rendu juste hallucinant quoi.
Bah merci, ça fait plaisir.
Donc
après il y a les moyens qui vont avec
j'imagine Dior, quoi. Le budget entre Novae dans ta cabane au fond du jardin et là le défilé Dior, c'est pas pareil. Ouais. Et du coup sur ces projets là c'est pareil, tu bosses toujours tout seul ou là j'imagine que tu as une équipe technique?
Pour la première fois là on utilisait un logiciel qui s'appelle Unreal Engine qui commence à se populariser beaucoup en ce moment, notamment dans le cadre de l'utilisation sur des écrans LED.
Ouais.
Donc du coup j'avais trois mecs de fou sur Unreal Engine, des petits prodiges quoi, qui en fait là pour le coup, bon c'est assez technique, mais en gros la caméra qui filme les écrans LED est traquée en live, en direct, donc c'est-à-dire que sa position est suivie et connue en tout moment quoi, et grâce à ça, ce qui est diffusé dans les écrans LED bouge en fonction pour donner une impression de profondeur et de perspective. Donc du coup, toutes les vidéos qui sont diffusées dans l'écran LED doivent l'être en live. C'est presque comme si on jouait à un jeu vidéo plutôt que on regardait un film. Donc ça, c'est vraiment une nuance qui est importante parce que c'est ça qui va donner l'impression que les mecs sont complètement dans l'espace quoi.
OK.
Donc ça, c'était un sacré challenge technique qui a pas trop mal marché grâce à ces petits gars de Unreal Engine.
Et parce que
je connais rien.
Ouais, parce que c'est complètement un métier différent, mais en dehors de justement ces mecs-là, ça veut dire que sur la partie After Effects, composition, etc., c'est toi qui es dessus, quoi,
ouais,
toujours.
After Effects, ouais.
Ok.
Et pareil, tu vois, je leur prépare ça sur After Effects pour que ce soit parfaitement utilisable dans les écrans LED. Et après, eux, en fait, ils le mettent carrément dans un level de jeu vidéo, quoi, tu vois.
Putain, c'est dingue.
Ouais, c'était très cool.
Et complètement dingue. Et alors, du coup, sur tous ces projets-là, donc il y en a certains dont on n'a pas parlé, un qui t'a challengé plus que les autres.
Ouais, bah ce premier défilé Dior, c'était quand même le plus impressionnant, notamment sur le nombre de personnes impliquées, la taille des écrans.
Pour donner une idée, les écrans, tu te souviens un peu la dimension?
Ouais, c'est... je crois, c'était 50, peut-être 40, 50 mètres, un truc comme ça.
Ok, wow.
En arc de cercle, donc...
Sur 4 mètres de haut?
Ouais, sur 3, 4 mètres. Ouais, c'était vraiment grand, quoi. Enfin, en tout cas, t'arrivais sur le plateau, c'était vraiment très, très impressionnant. Et ouais, il y avait une centaine de personnes. L'utilisation de la technologie Unreal, la caméra sur une grue robotisée avec sa croix de tracking, infrarouge, nos essais à longs jumeaux... du coup, il y a des écrans LED aussi. Ouais. Donc, du coup, on allait, puis on... Ouais, vraiment, t'as l'impression d'être dans le futur, quoi.
et alors, justement, sur ces projets-là, j'imagine que c'est la durée de travail, etc. C'est pareil quand t'as une commande comme ça, ou alors on te dit, voilà, le défilé, il est dans trois mois, quoi.
Non, justement, c'est d'autant plus challengeant que c'est vraiment des courtes durées en général.
OK.
Pour une raison que j'ignore... Encore aujourd'hui, ils n'arrivent pas
à prévoir.
Mais c'est bien, tu vois, ça donne t'es à fond dedans pendant peut-être c'était, je crois que je sais même plus. Je crois qu'on avait deux mois, tu vois, pour tourner, post-produire, arriver sur. Après, au bout de deux mois, c'était le défilé, quoi.
Donc t'as les autres projets, c'est 5, 6, 7 mois de taf.
En fait,
en un mois et demi, ça déroule, ouais, on y va, quoi.
En fait, ça dépend du type de projet. C'est-à-dire que les projets artistiques, même si c'est une commande, les gens vont avoir tendance à te donner un peu plus de temps pour que tu puisses t'exprimer, faire ton truc. Quand c'est des dynamiques de publicité ou de projets commerciaux,
ça va beaucoup plus vite, quoi. Putain, c'est une bonne contrainte, ça, par contre.
Ouais, mais c'est super. Du coup, ça t'oblige à, tu vois, comme on disait avant, les projets que j'ai fait à l'époque de Nova et Intra, c'est 80% de trucs que j'ai jetés parce que c'est d'expérimentation.
Là, il faut que 20% tout soit bon,
que tu gardes. Et là, aujourd'hui, tu vois, ça te permet d'être sûr que, OK, bon, ça, je sais que ça marche. Donc, je vais aller à fond là-dedans. Je vais pas prendre de risques. Et du coup, là, je vais tourner ça parce que je sais que ça va défoncer. Et du coup, ouais, c'est là où tu sors le meilleur de toi-même et t'as pas de choix, quoi, en fait.
Incroyable. Donc là, c'était le plus challengeant, mais il y en a un qui t'a peut-être plus touché, qui t'a le plus marqué que les autres.
Ouais, je dirais le clip que j'ai fait pour Olafur Arnalds,
ouais.
Qui est un pianiste que j'adore, qui fait du néoclassique, qui m'a proposé de faire un clip sur un morceau très touchant, sur un sujet qui m'intéressait beaucoup aussi. Ouais, je pense que c'est le projet sur lequel j'ai eu le plus d'inspiration, on va dire, et qui est sorti le plus naturellement du monde. D'ailleurs, il a été fait en très peu de temps, je crois, genre un mois et demi, le clip était fini. Parce que c'était trop fluide, quoi, trop naturel. Les auditeurs pourront aller voir, c'est un clip autour de la fractale et autour d'un trip d'ayahuasca, d'un trip psychédélique.
Très bien. Et ça, c'est pareil, c'est eux qui viennent vers toi pour ce projet, ou c'est génial parce que c'est un artiste que t'adores et ils viennent te voir.
Du coup, ça, c'est cool.
Magnifique, ça.
Après, je vais pas te mentir, j'ai eu des demandes pour des clips de death metal, de jazz aussi. Je trouve pas que, enfin, encore que, je sais pas, ça dépend quel type de jazz, mais j'ai pas l'impression que jazz et des trucs cosmiques, ça aille très bien ensemble. Pourquoi pas?
Si un jour t'as un peu de temps et que tu sais, t'as envie de faire des nouveaux trucs, ça se tente, quoi.
Pourquoi pas, ouais.
Et il y a une anecdote que tu souhaiterais partager sur le processus de création, peut-être, je sais pas, quelque chose qui t'est arrivé quand tu testais des différents liquides, ou en tout cas une anecdote sur un de ces projets-là.
Il y en a quelques-unes. On va dire, il y a des moments de grâce, tu vois, où en fait, t'as fait un peu. Des trucs nuls pendant 3 heures. T'as rien, ta carte mémoire, elle est remplie à ras-bord, tu jettes tout à la poubelle parce que tu sais qu'il n'y a eu aucun truc cool qui a été filmé, quoi. Et puis, au bout de la troisième minute de la troisième heure, tu filmes un truc que t'as jamais vu et tu découvres, en fait, une nouvelle réaction qui te fait waouh, qui t'explose la tête de comment c'est possible qu'un truc comme ça puisse arriver. Et en fait, ça m'émeut beaucoup parce que je trouve qu'il y a une dimension poétique dans le sens où comment la nature, elle te surprend, quoi. Tu vois, tu vas mélanger ça avec ci, ça va faire rien du tout. Tu vas mélanger ci avec ça, avec juste des petits dosages très différents. Et là, ça te fait un truc incroyable. Et je sais pas, il y a une forme de... Ouais, pareil, en fait, que je te disais au début, de mystère, de poésie, de... Peut-être même, bon, faut pas, tu vois, faut pas y voir des... Mais peut-être de code, de langage un peu caché de la nature, qui s'exprime, voilà, à toutes les échelles, un peu de la même manière. Et tu vois, il y a des moments où j'ai des rushs comme ça, où je fais, mais waouh, quoi, c'est...
Parce que même 10 ans après tes premiers essais sur ces techniques-là, t'en arrives pas à être, j'allais pas dire blasé, mais tu vois, t'as tes recettes précises, tu sais, tu mélanges ça avec ça, ça va te donner ça, boum, 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 tu déroules, le projet c'est ça, on y va.
Tu peux jamais être blasé.
En fait,
tu peux jamais être blasé parce que de toute façon, c'est soumis au chaos, donc t'auras jamais la même chose deux fois. Tu, peu importe ce que tu fais, t'as même une recette, en fait, t'as 1000 manières de la faire. Et 1000 dosages, il faut prendre en compte la vélocité à laquelle tu mets les encres, si tu les mets goutte à goutte ou si tu envoies une grosse impulsion, ça, tout est tout le temps différent. Et quelquefois, tu as vraiment des moments incroyables où tu as un rush comme ça et tu fais OK, waouh, celui-là je vais l'utiliser longtemps et partout, quoi.
Il y a des rushs que t'as utilisés sur plusieurs projets et... Ouais.
Bah, tu sais, maintenant, j'ai...
Ça te fait une grosse base de données, quoi.
Ouais, carrément. J'ai surtout des disques durs remplis avec plein de trucs, en fait, que tu peux utiliser à l'infini, quoi. Même les gouttes dont je te parlais pour l'atelier des lumières, ça te fait, en fait, juste une... C'est un peu comme une collection de stock shots. Donc là, moi, j'ai des dossiers où t'as écrit explosion type supernova, et en fait dedans j'ai 40 explosions que je peux réutiliser si à un moment donné j'ai envie de tout faire péter dans un film où tout explose ou feu d'artifice. Bah, tu vois, je peux utiliser ça, et du coup plus t'en as, plus
t'as de liberté derrière, de création
derrière, donc ouais, j'ai beaucoup de plans différents.
Et il me semble, justement, tu parlais de stock d'images, etc. Ça me fait penser, il me semble que tu bosses avec Frames Dealer aussi,
ouais.
Non,
c'est un peu, ouais.
Du coup, c'est quoi, si tu leur mets à disposition certains rushs,
exactement,
que eux vendent derrière,
c'est exactement ça.
Ouais,
c'est okay. Totalement ça.
Ok, ouais, c'est
à un moment donné, c'était un peu la société qui me produisait, où j'avais un manager qui m'aidait avec des prods, et puis en parallèle, ouais, cette boîte s'est mise dans la vente de stock shot premium, un peu. Enfin, plutôt orienté premium, luxe. Et c'est vrai que la plupart du temps, c'est les demandes que j'ai, c'est plutôt pour le luxe. Ça se prête bien au parfum, à la haute couture, enfin, truc Dior, haute couture et tout.
Donc, en fait, on peut retrouver certains de tes plans, des fois, dans une pub, un truc à droite, à gauche. Et toi, t'es au courant de ça avant que ça sorte?
Je suis au courant de ça, ouais. Alors okay. Après, c'est arrivé que ma mère, elle m'appelle, elle me dise « Ah, je t'ai vu à la pub, à la télé, j'ai vu un plan à toi et tout. » Ça, c'est cool, c'est grâce à Frames Dealer, donc je la remercie au passage. Et du coup, c'est cool, en fait, ça fait un revenu passif, et ça, c'est vraiment du luxe, quoi.
T'as la possibilité de refuser, ou dans le sens où les mecs, ils te contactent, je sais pas
trop comment... Ils ont une charte déjà okay. Très cool, tu vois, genre pas de guerre, pas de politique, pas de religion.
Ils se retrouvent pas dans un clip pour la présidentielle.
Ouais, voilà, c'est ça.
Ça serait chiant, même s'il y a pas ton visage, c'est ton taf, ça serait
chiant.
Ouais, c'est ça. Ah ouais, je comprends. Quel conseil tu donnerais aux personnes qui aimeraient se lancer un peu là-dedans? Je sais pas, il y a quelques tips, on va dire, de premier niveau, quoi.
Ouais, carrément. Bah, franchement, le truc qui m'a beaucoup, moi, servi, c'est de... Ça peut paraître un peu bateau de dire ça, hein, mais c'est d'avoir une envie et d'y croire et de la faire et de rien lâcher jusqu'à ce qu'elle soit faite. Et qu'une fois qu'elle est faite, tout faire pour que tout le monde la voit. Voilà. Donc, si c'est dans le cadre de l'audiovisuel et que vous avez envie de faire un court-métrage... Après, ça dépend, tu vois, genre, moi, c'est assez spécifique parce que je voulais vraiment être artiste et faire ce que j'ai envie de faire et être connu pour ça, ou en tout cas, au moins, faire ce qui me plaît, quoi. Et en l'occurrence, c'est passé à un moment donné par montrer ce que je sais faire.
Bien sûr.
Et essayer, même si j'étais pas reconnu à l'époque, d'avoir un maximum de confiance dans ce truc-là. Je pense que le meilleur conseil, c'est une fois que le projet est fait, essayer de le montrer.
Le diffuser au max.
Grand nombre. Et ça, c'est cool parce qu'il suffit qu'il y ait qu'une personne, tu vois, bien placée ou importante qui le voit et ça peut partir, tu sais jamais, quoi.
Et alors, s'il y en a certains qui ont envie de faire un peu d'expérience chez eux avec leur caméra pour voir un petit peu comment ça fonctionne, c'est un aquarium, du liquide vaisselle, du café, des pigments de couleur, tout ce qui passe.
Franchement, ça, le mieux, c'est d'expérimenter par soi-même. Il n'y a pas tellement de
trucs pas de tuto, à conseiller,
tu vois. Ouais. Bah, moi, j'ai pris mon chemin. Je pense qu'il y a plein de trucs que je sais pas du tout. Mm-hmm. Dans cette pratique-là, tu vois, il y a plein de produits que j'utilise pas. Par exemple, mon compère et ami Roman Hill me montre des rushs à lui parfois. Je me dis, mais comment il a fait ça, tu vois? Ça, quel truc il a utilisé pour que ça donne ce résultat-là? Et pareil, tu vois, lui, il va regarder certains de mes trucs, il va dire, mais comment t'as fait ça? Et ça, c'est cool parce qu'en fait, je crois que le dicton, c'est la lanterne n'éclaire le chemin que de celui qui la tient. Et ouais, je le trouve cool, ce dicton, parce qu'en fait, vas-y, là où tu t'intéresses, c'est là où tu vas et ça t'apprend des choses que toi seul vas savoir. Peut-être que tu vas passer à côté de trucs que t'aurais voulu savoir, mais tu t'en fiches, en fait.
Ouais, tu fais ton chemin.
Tu fais ton chemin, quoi.
OK. Voilà. Donc, armez-vous de votre liquide vaisselle et c'est parti, quoi.
Ouais, si tu veux vraiment...
Non.
Des encres acryliques.
Ouais.
Ça, c'est vraiment cool. De l'eau et du sirop.
OK. C'est déjà un bon début. Et puis, au moins, sinon, pour faire un cocktail, quoi.
Exactement, ouais. Bon, après, mettez pas de l'encre acrylique dans vos cocktails, mais...
Mais ça, c'est un mauvais conseil, pardon. Super. Et pour terminer, du coup, cette interview, est-ce que tu as une ref, un livre, un podcast, une émission YouTube, n'importe quoi, quelque chose, en tout cas, que tu t'écoutes ou que tu regardes en ce moment et que tu conseillerais, que ce soit sur ce domaine ou un autre?
Là, en ce moment, dans le même délire que moi, il y a Cosmodernisme qui fait des trucs que je suis un peu en mode waouh, c'est vraiment fou, quoi. Parce que je pense qu'il utilise... Tu vois, comme je te disais tout à l'heure, le chemin, la lanterne et tout, lui, il utilise par exemple des subwoofers, enfin des enceintes, il fait vibrer les liquides. Ça, c'est cool aussi, tu vois. Mais ça, j'aimerais bien essayer. Notamment, je pense, je sais pas si les gens ont déjà vu le sable sur les plaques qui font vibrer à certaines fréquences, ça fait des formes complètement ouf. Ça, c'est pareil, tu vois, c'est un peu comme les moments de grâce dont je te parlais. Quand je vois ça, je me dis, mais comment c'est possible que le sable, il prenne cette forme-là quand tu le fais vibrer à tant de hertz de fréquence? Donc, Cosmodernisme, c'est vraiment cool. Et après, pour ceux qui s'intéressent au cosmos et à l'astrophysique, il y a des chaînes YouTube vraiment très cool, notamment celle d'Hugo Lisoire, qui est très carré. Celle de Balade Mentale, qui est vraiment cool aussi, plus onirique.
Balade Mentale.
Ouais.
Ok. Super.
Et voilà.
Bon, bah, super. Bah, écoute, merci beaucoup, Thomas, pour nous avoir raconté un peu tous les dessous de tes projets et le chemin que t'as parcouru avec ta lanterne.
C'est ça.
Pour arriver jusque là aujourd'hui. Je le redonne. Allez voir, sur ton site internet, Thomas Vance.
Mais tranquille, tout le monde dit ce qu'il veut, en fait.
Alors, Thomas Vance, c'est VANZ.com et sur Instagram, pareil. Allez voir les contenus, allez voir les making-of, c'est vraiment phénoménal. Donc, n'hésitez pas à aller voir et laisser des coms, des likes, tout ça.
Trop bien.
Merci Thomas.
Merci.
Ciao. Salut.
Ça fait plaisir.